à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, le seul 55 minutes chrono de la radio pour débattre de l'actualité des séries. Et grâce à la vie affûtée, parfois mordant, mais jamais de mauvaise foi de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur, tentez de vous recommander le meilleur de la série 3e saison, épisode 19, au cours duquel nous parlerons ce soir enveloppe piégée, panique au sommet avec The Hot Zone and Trucks sur National Geographic. Thank you so much. Passé traumatique et suspense arachnéen avec Ne t'éloigne pas sur Netflix. Et enfin, polar solaire et fin de l'innocence dans les hautes herbes sur Arte.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, Ariane Allard de Cosette et de Positive. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Isabelle Danel, bandapart.fr. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir tout le monde.
Et Benoît Lagan, le 5-7 de Mathilde Munoz et Télématin.
Bonsoir à tout le monde.
Alors ça n'est pas n'importe quelle émission, c'est toujours l'épisode 19 de la saison 3, mais c'est la centième d'une heure en série. Alors évidemment, j'ai remercié toutes les chroniqueuses et le chroniqueur, mais également toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Un petit clin d'œil à Muriel Pérez, notre programmatrice musicale qui est absente en ce moment, mais qu'on aime tendrement. Après, je ne vais pas citer tout le monde, évidemment. Et je voudrais remercier, mais vraiment du fond du cœur, parce que c'est à elle et à eux que l'on doit la pérennité pour l'instant de cette émission et son succès. Ce sont les auditrices et les auditeurs qui ont adopté l'émission si vite et qui en sont si fidèles. Il y a des courriers chaque semaine. Cette semaine, exceptionnellement, on va parler d'autre chose, mais promis, je les dirai la semaine prochaine. Donc, merci de cette interaction, merci de cette fidélité, merci pour le talent de toutes les chroniqueuses, du chroniqueur et de toutes les personnes qui travaillent à l'émission. Marie-Annick Rimbaud, Amel Caldi. Voilà. Voilà, je m'arrête là.
Et merci à vous, Xavier, de nous accueillir si chaleureusement chaque samedi. On est très heureux de débattre des séries autour de vous.
Et moi, je ne pouvais pas rêver plus belle équipe en tout cas. Voilà, donc centième émission et on commence par une petite note un peu triste.
Merci à toi, mon ami. Merci d'avoir croisé mon chemin.
On reconnut le générique en français des craquantes, les Golden Girls, sans doute la sitcom la plus drôle des années 80-90. Alex Taylor dans Libération cette semaine parlait de la seule sitcom gay avec que des femmes. C'est vrai que c'était exactement ça. Betty White qui interprétait l'inénarrable Rose, une loi blanche, celle qui n'avait toujours pas vu le loup à un âge où hélas malheureusement ça risquait d'être trop tard, nous a quitté cette semaine à l'approche de ses 100 ans. Une femme dont on a redécouvert qu'elle avait été pour les droits civiques. Enfin Benoît, vous lui avez rendu hommage hier matin dans le 5-7 justement.
Oui parce qu'en fait ce qui est intéressant et qu'elle soit Rose dans Les Craquantes, c'est pas étonnant parce qu'en fait elle est là dès le début de la télé, donc en fait elle a connu toute la télé, elle a été dans plein de sitcoms et en fait elle a évolué, elle a grandi. Elle a toujours été libérale, elle a toujours défendu des idées libérales, mais vraiment, alors qu'on pourrait penser qu'elle vient du fin fond de l'Amérique, ça pourrait, elle ressemblait.
Ah oui, c'est la fille de la campagne.
Ah oui, ça pourrait être Madame Bush, quoi. Ouais. Enfin,
Elle a la même mise en plis.
Voilà. Mais c'est ça qui était intéressant. D'ailleurs, elle en jouait dans son personnage. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup avec Les Craquantes, c'est qu'elle n'est pas la seule, avec les autres, qui sont aussi des visages de la sitcom américaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment la jonction entre les sitcoms d'amis qu'on va voir ensuite, c'est genre Friends, mais avec 30 ans de plus. Et c'est aussi dans le registre de la maison, donc de la sitcom domestique, dont elle a été une des figures, parce qu'en 54, elle a produit, enfin elle a été à la tête d'une sitcom à elle, Life with Elizabeth, qui était une des premières sitcoms juste après I Love Lucy.
Voilà, donc merci à Betty White qui rejoint maintenant toute l'équipe des Craquantes est ailleurs.
Ah bah oui, ça y est.
Mais ils doivent bien se marrer s'il existe un paradis. En tout cas, là, subitement, j'ai envie d'y aller, évidemment. Et si vous avez un jour envie de vous faire une idée sur le génie comique et des comédiennes et du talent des auteurs, regardez l'épisode spécial Noël. Voilà, qui est une référence pas tout à fait avouable, mais extrêmement usitée dans les coulisses de cette émission. Demain auront lieu les Golden Globes.
Ah bon ?
Dans une indifférence... Général, je pense qu'on doit être à peu près
les seuls.
Ah, j'avais une petite voix, Betty White. Oui, pardon, excusez-moi, c'est notre réalisatrice Marie-Annick Rimbaud qui me rappelle qu'une fois de plus, je suis allée trop vite.
We couldn't pass a horse without Charlie saying, "Can I show you something in an Oxford?" Ah, and then he'd laugh, and I'd laugh. Sometimes even the horse would laugh.
Voilà, on peut maintenant aller parler des Golden Globes qui ne laisseront plus beaucoup de traces, en tout cas cette année. Je pense qu'ils sont ravis d'avoir une heure en série comme presse internationale. Là, ils débouchent le champagne. Je vais vous demander de vous prononcer comme d'habitude sur deux catégories. On va commencer par la meilleure série musicale ou comique sans nominer dans cette catégorie. The Great, X, Reservation Dogs, Ted Lasso et Only Murders in the Building. Isabelle.
Only Murders in the Building, c'est vraiment la série comique qui m'a beaucoup plu, enfin dans les cinq qui sont nommés là.
Sur Disney+.
Voilà, sur Disney+, c'est très réussi. Steve Martin, une pléiade de comédiens, ça s'amuse, ça joue. Et ça joue pas tout seul, c'est-à-dire qu'on est on est emballé avec eux, quoi. Ils sont pas que à se faire plaisir.
Benoît ?
Oui, moi je suis d'accord aussi. Et s'il fallait leur décerner un prix pour un épisode en particulier, il y a cet épisode tout silencieux, parce que tout est entendu par, ou vu par le sourd de dans l'immeuble, et c'est génial, c'est vraiment un exercice de style très réussi.
C'est un polar en podcast, voilà. Si vous ne connaissez pas la série, on vous invite à la découvrir. Ariane
Moi c'est The Great en fait, qui m'a fait beaucoup sourire,
dans la saison 2
si
vient de démarrer.
Qui en plus a été écrit par le scénariste du film La Favorite, qui était déjà pour moi une référence en matière d'insolente et une façon de revisiter l'histoire et ses foufrous. Et juste citer l'actrice, parce que c'est Elle Fanning, et elle est absolument remarquable dans un rôle comique. Et on n'y est pas habitué.
Moi, je voterai pour Reservation Dogs, qui est sur Disney+, qui est une série sur une réserve indienne et qui effectivement réussit à être politique, incisif, sociétal et très drôle en même temps. Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm, nous avons Dopesick, dont nous avons parlé ici même, Impeachment American Crime Story, sur l'histoire d'une robe tachée tristement célèbre, Made Mary of Easton et The Underground Railroad, on les avait toutes défendues ici même. Même tour de piste, Isabelle.
J'ai un vrai coup de cœur sur Mare of Easttown,
qui
Kate Winslet, un petit coin d'Amérique avec du polar,
aussi du
sociétal, comment être une mère, une grand-mère avant l'âge, etc. Et c'est vraiment une des belles séries de cette liste, mais elles sont quasiment toutes bien, selon moi.
Je suis d'accord avec vous. Benoît.
Oui, toutes pour avoir le prix. Moi, ce serait The Underground Railroad.
Oui.
Parce que vraiment, c'est le coup de poing qu'on a tous ressenti quand on a vu la série. Et qui, dans cette Amérique, aujourd'hui, qui essaie de faire le bilan aussi après les années Trump, de ce qui s'est passé pour la communauté afro-américaine, je trouve que c'est la série importante à récompenser.
Ariane.
Oui, moi, c'est comme Isabelle, c'était Mare of Easttown aussi. Juste dire que c'est une façon de faire un thriller que moi, j'ai rarement vu. C'est-à-dire que c'est une détective locale. Ça se passe dans un tout petit périmètre et c'est pas du tout héroïsé, au contraire, et moi j'aime beaucoup.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec mes deux amis, Isabelle et Ariane. Je trouve effectivement, j'ai un petit doute sur la mise en scène de Underground Railroad que je trouve parfois un peu emphatique, alors que celle de Mary of Easton est vraiment tout à fait cohérente et totalement frontale avec son sujet qui est le social, effectivement. Mais c'était cinq très bonnes séries. 4 semaines à peine après les tragiques événements, j'y arrive, du 11 septembre 2001, une série d'enveloppes en apparence banale sème de nouveau la panique aux États-Unis. Journalistes, politiciens, beaucoup d'entre eux reçoivent des lettres contenant une poussière blanche très vite identifiée comme étant de l'anthrax ou bacille du charbon, une bactérie à haute puissance toxique et mortelle. Alors que ce courrier de la mort trace sa dangereuse course, l'agent du FBI Matthew Ryder, spécialisé en microbiologie, tente de découvrir qui se cache derrière ces attentats que le sommet de l'État voudrait de préférence attribuer à un pays étranger, quitte à minimiser l'hypothèse d'une piste domestique. The Hot Zone Anthrax, une série américaine de 6 épisodes disponible sur la chaîne National Geographic, soit la deuxième saison de cette série d'anthologie qui, après les ravages du virus Ebola, revient sur le vent de panique que ces missives à l'anthrax firent souffler sur une Amérique encore traumatisée, à l'exception du personnage de l'enquêteur. Tout est sinistrement vrai dans cette course contre la montre, reconstituée avec un réalisme assez flippant.
Anthrax spores do not just die. They settle. They lie in wait. What we're talking about is a ticking time bomb. I saw it with my own eyes. Get out. America has many enemies. I'm here to warn you. An attack is inevitable.
I need a team at Capitol Hill right now.
FBI, stand and calmly exit the building.
The Hot Zone Anthrax, une série créée par Brian Peterson, auteur sur Smallville et Under the Dome, ainsi que Kelly Sanders, qui a travaillé sur Salem, une série avec Daniel Dekim, Tony Goldwyn, Dylan Baker et Ian Colletti. On les a vus à peu près partout. C'est pour ça que je vais m'abstenir de détailler leur filmographie. Côté de la presse, The Hollywood Reporter, qui est un peu d'ailleurs au diapason de la presse américaine, déplore que la série repose sur, je les cite, un jeu du chat et de la souris faiblement structuré, combiné à un profil psychologique rudimentaire. Télérama relève un peu le niveau. Il trouve que le récit suffisamment tendu et une distribution de qualité suffisent à faire de The Hot Zone un thriller plutôt convaincant. Benoît.
Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Télérama, parce que c'est intéressant quand même cette anthologie au départ, hein. C'est-à-dire que cette première saison, vous le rappeliez, c'était sur Ebola, sauf que c'était avant la pandémie que nous connaissons, et il y avait quelque chose dans cette série qui était à la fois du thriller militaro-médico flippant, donc il y avait quelque chose d'assez... Et, sauf que qui, après cette saison, aurait pu imaginer que cette série... Quelle autre pandémie, ou quelle... voilà, quel thème cette série aurait pu elle aurait pu elle aborder. Et la réponse est là en fait. C'est-à-dire que finalement on sort on est plus dans un thriller presque politique qui nous raconte aussi le contexte d'une époque, et ça je trouve ça plutôt bien amené, même si j'aurais aimé que le contexte politique soit un peu plus développé. Il y a cet arrière fond du 11 septembre très présent, parce que le personnage est complètement handicapé par ça, traumatisé par ça, et que en fait la réponse de l'Amérique et que ce terrorisme à l'entrée et dans le prolongement de cet événement. Sauf que je trouve que ça, c'est pas assez profondi pour rester justement sur ce que dit Télérama, un thriller plutôt efficace, bien porté par des personnages qui tiennent la route, mais finalement dans un polar antiterroriste assez classique. Voilà. Et moi, c'est ça que, même si c'est très bien documenté, et si on apprend deux, trois choses, si on avait un peu oublié ce qu'on avait pu lire à l'époque dans la presse, voilà, c'est intéressant, c'est bien fait, ça aurait pu être mieux. Voilà.
Ariane.
Oui, non, moi je trouve que ça passe complètement à côté même. C'est-à-dire qu'a priori, ça pourrait être intéressant, même si c'est toujours, enfin, c'est une anthologie qui agite essentiellement les peurs et les paranoïas américaines. Donc on connaît un petit peu, enfin voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve qu'on voit quand même les ficelles scénaristiques. En l'occurrence, vous avez parlé du détective. Ce détective, il est vraiment là pour, enfin, parce que ça s'appuie sur des faits réels, et lui, c'est un personnage totalement fictif, hein. Et on voit bien qu'il a été créé pour créer du lien entre les différents intrigues, sous-intrigues et personnages. Il est là aussi pour tenir la main, je pense, du spectateur, parce que sinon on comprend pas tout bien. Et il se trouve que ce personnage, en fait, il n'existe que par ça, pour expliquer les enjeux au fur et à mesure du récit. Déjà, c'est la première tare. Et la deuxième, alors je suis désolée, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais il est incarné par un acteur qui s'appelle donc Daniel Day Kim.
Que l'on a vu dans Lost et que l'on a
voilà,
vu dans Hawaii.
Qui je trouve à peu près la même expressivité qu'un Arnold Schwarzenegger, je sais pas moi, dans un flic à la maternelle. Enfin moi, ça m'a donné à peu près la même impression.
Mais il a vraiment vu un flic à la maternelle, parce que personne ne l'a jamais vu.
Oui, moi si, malheureusement j'ai regardé. Il a effectivement autant d'abdos que lui, mais tant mieux pour lui. Mais à part ça, je trouve qu'il est quand même, il est dans un jeu et dans une expressivité qui est tout à fait interchangeable. Voilà. Bon, bref, je vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais je vais pas me le faire. Je trouve que c'est une série qui est dédiée à l'anthrax, mais qui laisse absolument aucune trace.
C'est pas mal. Non, mais validons, moi je suis assez d'accord. Pas travaillé du tout d'une spontanéité absolue.
Totalement spontanée.
Sinon je voulais juste vérifier.
Merci de le préciser, Xavier.
Isabelle Danel.
Moi je suis plutôt d'accord avec Ariane. Je suis assez déçue. Au départ ça m'intéresse, parce que effectivement je me souviens pas d'un certain nombre de choses, donc je me dis je vais apprendre des choses. Et puis au bout des quand même 6 fois 52 minutes, je suis quand même allée vérifier la fiche Wikipédia qui s'appelle « Enveloppe contaminée au bacille de charbon » et où quand même ça va beaucoup plus vite pour comprendre ce qui s'est passé, hein, excusez-moi. Donc voilà, pour moi le problème principal, en dehors du fait que les deux personnages principaux sont problématiques, et ils sont problématiques parce que en fait ils sont construits en antagonistes, mais on ne le sait qu'au bout de 4 épisodes. Donc effectivement, c'est un petit peu long pour comprendre, pourquoi il est aussi monolithique, pourquoi l'autre est, voilà, c'est très compliqué. Et moi, l'autre gros problème, on a mentionné Dobbsick tout à l'heure dans la liste. C'est que, contrairement à Dobbsick qu'on a défendu ici...
Alors on va rappeler en deux mots Dobbsick, c'était l'histoire d'un scandale sanitaire, pharmaceutique, d'un médicament qui était censé ne pas créer d'accoutumance et qui a évidemment entraîné l'addiction et la mort de beaucoup de patients en États-Unis.
Voilà, et l'intérêt de Dobbsick, c'était que les malades étaient identifiés, on savait qui ils étaient, on comprenait leurs mots MAUX, et on était avec eux. Et là, pardon, mais du coup, il y a il y a absolument aucune empathie parce que les personnages, on ne sait pas qui c'est à la base. Une fois qu'ils sont malades, bon bah voilà, c'est triste, il y en a quelques-uns qui meurent, mais c'est voilà, il se passe rien quoi. Il y a absolument pas d'enjeu à ce
mais pardon, mais je crois que c'est un petit peu le but de l'écriture et de la mise en scène. Non?
Bah oui. Oui, mais justement, bah donc il y a voilà. Rien qui y a rien ouais, rien
mais moi je trouve que ce côté très froid, très mécanique du thriller, mais c'est pas inintéressant.
Ah ben moi ça m'est tombé un peu des yeux du coup parce que je trouvais que il manquait une espèce d'énergie là-dessus et que du coup ça se focalisait beaucoup sur ces deux personnages qui quand on va au bout de la série sont vraiment problématiques dans leur écriture quoi parce que ils sont justement ils sont jetés l'un contre l'autre quoi j'essaye de ne pas en dire trop de ne pas Benoît Laganiser parce que maintenant on dit plus spoiler
on dit Laganiser
je l'ai fait une fois
c'est tombé dans le domaine public.
Non, mais c'est très difficile d'en parler parce que si malgré nos réticences, les auditeurs et auditrices ont envie de la voir, c'est un peu dommage d'en dire trop. Mais c'est vrai que moi, la mise en scène qui a l'air de vous intéresser, cette froideur comme ça, moi je trouve que justement ça passe de l'autre côté, quoi. Ça passe à côté en l'occurrence.
Oui. Bon, Benoît, allez-y.
Non, mais juste, c'est effectivement très froid et très classique en fait dans la mécanique. C'est dommage que tous les personnages. Mais je pense qu'en fait dans le traitement médiatique de l'époque, c'était un peu la même chose, je pense. En fait, on s'était focalisé sur l'anthrax et pas forcément sur tout ce qui se passait autour. Et je pense que c'est ça que la série a voulu faire. Et moi, je trouve ça pas si inintéressant que ça.
Bon, voilà. Si je vous résume, c'est retour à l'envoyeur hein, pour les lettres à l'anthrax.
Ça aussi, c'est très
spontané. Non, même pas.
Help me leave the darkness behind.
Tell Me How Bad I Am par Animal Triste, un titre pour lequel ce groupe français, formidable, hein, je crois qu'on a tous craqué pour le titre pendant sa diffusion, pour lequel ce groupe français s'est attaché les soins de Peter Hayes, chanteur et guitariste du groupe de rock. Alors là, attention, je vais me ridiculiser, Black Rebel Motorcycle Club.
Mais yes.
On a tout compris. Voilà. Extrait d'un album sorti début décembre, ce titre hypnotisant, puissamment mélancolique, évoque le monde de la nuit, celui des vampires et des gens attirés par les pénombres et ceux qui regardent des séries télé, évidemment, jusqu'à 3h du matin. Animal Triste sera en concert à Arles le 22 mars prochain.
France Inter. Une heure en série.
Le moment venu d'un petit conseil littéraire et je vous recommande la découverte de la dernière ballade de Jane Thompson de Fred Vermorel dans l'excellente traduction de Paul Simon, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je l'anglicise le pauvre, Boutafirg aux éditions Sonatine, à l'instar de la série The Hot Zone qui revient sur des histoires vraies. Je vous ai choisi pour ce conseil littéraire ce paradigme emballant de ce que les anglo-saxons appellent les true crimes, soit des crimes s'étant réellement déroulés et sur lesquels les auteurs reviennent avec la précision d'un journaliste et le style haletant d'un auteur de romans policiers. C'est le cas ici avec la tragique histoire de Jane Thompson, retrouvée morte en 1954, étranglée dans un terrain vague dans la banlieue américaine. Un crime sordide qui ne fut pas sans rappeler la fameuse histoire du d'Alien Noir, bien sûr. D'autant qu'à ce jour, le meurtrier n'a jamais été identifié et que le mystère demeure entier. Illustré par pléthore de documents d'archives, le travail de Vermorel dépasse vite les carcans de la seule enquête judiciaire, car la jeune fille était styliste et évoluait dans les zones troubles et interlopes du Sceau des années 50, un lieu de toutes les libertés, en particulier sexuelles, où tout, du trafic de stupéfiants à la prostitution des deux sexes, se jouait dans la pénombre des bars et clubs libertins. Remontant toutes les pistes, les analysant, les recoupant, grâce à des témoignages et des coupures de journaux, l'auteur fait revivre cette ivresse frelatée et nullement insouciante. Dans les recoins des ruelles, nous croisons quelques têtes connues, allant de Joan Collins à Rock Hudson, en passant par les fameux frères jumeaux Cray. Et parmi les suspects, en tout cas très crédibles, se trouve Michael Whitaker, styliste et patron de la victime, bisexuel, fétichiste et amateur de SM. Bon, jusque-là, hein, trop original, un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut, pour mémoire cinéphilique, nominé aux Oscars pour les costumes de la Rose Noire d'Henri Hathaway, mais surtout pour avoir designé, quelque temps après le meurtre, le fameux costume d'Honor Blackman dans Chapeau, Melon et Bonne de cuir.
Voilà.
Ce truc cuir, fétichiste, hyper sexe, on a toutes voulu porter, mais moi je rentre plus dedans. Bref, plus qu'un simple true crime, ce livre est la reconstitution passionnante d'une époque et de ses peu recommandables coulisses. Donc je vous recommande La dernière ballade de Jane Thompson par Fred Vermorel. La traduction, je vais le remettre dans l'ordre, Paul Simon Bouffartigue, et c'est aux éditions Sonatine. Dans son roman « L'heure zéro », Agatha Christie partait du principe qu'un meurtre n'était pas le début d'une histoire, mais bien au contraire son chapitre final. Harlan Coben, l'auteur du roman adapté dans cette série, fait ici sien de ce principe. Tout commence lorsqu'un jeune homme, fêtard, fils à papa, sort en titubant d'une boîte de nuit. Il s'égare dans les bois avoisinants avant d'être agressé. Un crime sans corps, mais qui va titiller le flair d'un inspecteur qui se souvient d'une disparition similaire survenue 17 ans plus tôt. Et c'est bien dans le passé, son maillage de responsabilité et de culpabilité, que se niche la vérité qui pourrait inclure une mère de famille ayant refait sa vie, mais qui se retrouve violemment rattrapée par celle d'avant, et surtout par l'homme toxique qui l'avait poussée à tourner la page, mais également le mari de notre héroïne, leur fille et un photographe de guerre reconverti en paparazzi. Ne t'éloigne pas, une série britannique en 8 épisodes, disponible sur Netflix, adaptée d'un roman éponyme sorti il y a 10 ans, un pur concentré d'Arlan Coben, des bois opaques, le poids du passé qui ressurgit et des personnages aux nombreuses facettes multiples.
Je me suis enfui. Et puis j'ai changé de nom. J'ai commencé une nouvelle vie. Comment tu m'as trouvé?
Ils sont au courant? Ta famille?
Au courant de quoi?
Tu leur as dit qui tu étais? Quel genre de vie tu menais avant? Relevin.
Je n'étais pas venu ici depuis longtemps. Cassie t'a jamais donné de nouvelles?
C'est qui cette fille?
Je viens de passer plus de 17 ans à la chercher. Je me demande si ça voulait dire quelque chose pour elle, ce qu'on a vécu ensemble.
Eh bien, qui voilà?
Mon inspecteur préféré.
C'est quoi l'urgence?
Un jeune homme, il a disparu. Vu pour la dernière fois la même nuit que la disparition de Carton.
La même nuit?
Comment tu comptes protéger ta famille exactement?
J'en sais rien pour l'instant. Mais je vais le faire. Je dois le faire.
Ne t'éloigne pas, une série avec dans les rôles principaux Cash Jumbo, James Nesbitt, Daniel Francis et Richard Armitage. Elle adore les whodunits parce qu'elle est nuit à dévorer des romans policiers.
C'est vrai.
Ariane Alarme, je la comprends.
Mais écoutez, alors, bon, je vais être honnête avec vous, hein, j'ai regardé jusqu'au bout parce que c'est assez difficile avec Arlene Coben de paraisser, de résister, hein, voilà.
La mécanique est implacable.
Elle est toujours implacable, les articulations, tout ça, voilà.
Après. C'est un peu répétitif.
Un peu. Puis surtout quand on en a vu plusieurs et quand on en a lu plusieurs, effectivement, vous l'avez vous-même repéré, hein. Le bois opaque qui est juste à la lisière du lieu où il y a le crime, la métaphore du cachet, du souterrain. Alors là, effectivement, c'est une fosse dans un sous-bois, dans d'autres livres ou dans d'autres films. Ce sont des étangs un petit peu opaques, c'est toujours la même chose.
Là, on a tout, oui.
Voilà, on a tout. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était un peu hybride hein, et que j'ai eu le sentiment de voir une série qui était un peu tiraillée entre... Alors, c'est peut-être parce qu'elle est américano-anglaise et c'est tiraillé entre deux humeurs, deux cultures, deux tensions un peu bizarres. Il y a donc tout le côté qu'on connaît bien d'Arlene Coben, qui est quand même ce côté très américain et qui finalement, bon, voilà, c'est des repères, c'est familier, c'est plutôt sympathique à suivre. Et puis, donc la double vie, vous l'avez parlé, parce que c'est quand même là-dessus que repose essentiellement le suspense et l'action, voilà. Et de l'autre côté, il y a un côté quand même très bizarre, avec des espèces d'embardés, vers un côté presque grotesque, vers une espèce de même de satire, même vers l'ultra-violence. Alors évidemment, quand on voit ça, je pense à un jeune couple, parce qu'il y a un jeune couple de tueurs psychopathes qui, avant ou après, ou même pendant qu'ils commettent leur forfait, dansent sur des airs de comédie musicale, c'est-à-dire c'est carrément Broadway ou l'équivalent à Londres. Et évidemment, on pense forcément à Orange Mécanique, sauf que c'est un petit peu l'Orange Mécanique du pauvre, quand même. Et moi, ça m'a un peu gênée, parce que je trouve que la greffe, elle ne prend pas complètement. Voilà. La seule chose quand même que j'aimerais retenir sur le point d'un point de vue très positif, c'est quand même le casting, parce que autant la prod était américaine, autant le casting, il est britannique, et on peut dire tout ce qu'on veut sur cette série. Les acteurs, moi, je les trouve tous quand même épatants.
Anglais, bien sûr. Double vie ne nous lira jamais, en tout cas avec la masse de travail qui est la sienne, je doute qu'il ait le temps, effectivement, de mener plusieurs vies en même temps. Notre cher Benoît Lagan.
Moi, je me suis un petit peu éloigné assez vite de Ne t'éloigne pas. D'abord parce que, justement, alors pour les mêmes raisons, sur cette greffe qui prend pas. Et on retrouve, au départ, je trouve qu'en plus, dans la façon dont c'est la lumière est travaillée dans cette série, on est vraiment dans le confort de la maison, où la famille, tout va bien, tout le monde est heureux.
Ça, c'est Coben. Hein.
Voilà, ça, c'est Coben. Donc ça, c'est classique. On sait que, bien évidemment... Ah bah. Derrière ça, ça sera pas
parfait
comme contrairement à la photographie. Et effectivement, il y a ces choses, ces tueurs à gages un peu étranges, mais ils en font pas grand chose. Et donc, moi, en fait, j'avance, je tourne les pages. Voilà. Donc, je suis les épisodes comme on tourne les pages. Et à la fin, il y a tellement eu à chaque épisode de trucs qui nous sont sortis du chapeau, qu'à la fin, même quand on nous dévoile qui fait quoi, en fait, moi, je m'en fiche. En fait, je me dis, ah ouais, d'accord, ok, tout ça pour ça. Donc, non, c'est pas désagréable à regarder.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais si on a... Enfin, je suis pas certain, en fait, que je serais allé jusqu'au bout si j'avais pas eu à le voir pour l'émission de ce soir, en fait. Parce que il y en a tellement des séries d'Arlan Coben adaptées de l'univers d'Arlan Coben. Sur Netflix, il y en a au moins 5-6.
Bah oui, il y a un contrat.
Il y en aura même plus, d'ailleurs.
Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Donc, du coup, on voit les trucs un peu venir et on sait que, de toute façon, on sera surpris. Ou pas surpris, ou surpris, mais on s'en fiche.
C'est un concept.
Isabelle Danel, la planche est un peu savonnée. Mais...
Oui, mais après, vous avez dit arachnéen, c'est un mot bien poétique pour quelque chose que je trouve un grand Capharnaüm. Après, moi, je suis d'accord avec Ariane, je trouve que les acteurs sont absolument prodigieux. Et, en l'occurrence, je suis un peu déçue par Cush Jumbo, que j'étais ravie de retrouver, qui était dans The Good Fight, The Good Wife, et que j'adorais dans ces deux séries. Et là, je trouve qu'elle a pas l'ampleur pour le drame. Elle est beaucoup mieux dans la comédie. Mais il y a un acteur qui s'appelle James Nesbitt, qui est l'inspecteur Mike Broom, et qui est absolument
remarquable.
Qui était formidable en Jekyll, absolument. Et dans Murphy's Law aussi. Et c'est vraiment lui qui, pour moi, sauve la série. C'est-à-dire, comme il y a plein de subplots, il y a plein d'intrigues souterraines, enfin pas souterraines d'ailleurs, parce qu'elles sont très résurgentes. Et donc, à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Et tout d'un coup, moi, je suis plus intéressée par ce personnage-là, par ses relations avec sa partenaire, dont on découvre quelque chose, sur laquelle on découvre quelque chose que je ne dirai pas. Sa rencontre avec une femme dont il tombe amoureux, etc. Donc tout ça fonctionne très très bien. Et ça, moi, ça m'intéresse parce qu'il y a un acteur génial. Les deux actrices sont étonnantes aussi. Et du coup, là, il se passe quelque chose. Mais par ailleurs, tout le reste est tellement téléphoné, tellement habituel que rien ne se passe, quoi. Il y a juste sur la résolution de l'intrigue, contrairement à toi, moi, je trouve quand même qu'il se dit... On voit arriver quand même la résolution. Mais il s'y dit des choses que je trouve quand même assez importantes à dire, quoi qu'il en soit, etc. Ouais,
trois coups de cuillère à peau.
Disons que c'est en phase avec l'époque.
C'est en phase avec l'époque, mais en dehors de ça, voilà. Et puis, excusez-moi, mais je veux dire... Bon, ben j'arrête alors, parce que j'ai des grands signes.
Terminez votre phrase, mais oui, j'ai besoin de mener cette émission à son terme.
Non, non, mais il y a des problèmes de toutes parts. Il y a juste une vraie qualité, ce sont les décors. Je trouve que tout ce qui est le pont, la tête géante, etc., c'est formidable.
Généralement, c'est pas bon signe quand on dit que les décors sont formidables.
Mais non, il s'y passe quand même un petit quelque chose.
Tout le monde a pris ses distances avec Ne t'éloigne pas, la série sur Netflix.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo. Je suis passée par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi. Jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
Par Alexia Grédy, extrait d'un album à venir et personnellement très attendu. Vertigo, c'est l'histoire d'une déception amoureuse. Alors vous allez me dire, un sujet maintes fois rabâché dans la chanson française, mais qui pour moi se détache ici du lot grâce à une écriture qui évite le premier degré de l'auto-atermoiement. Entre toi et moi, dit-elle, mon grand, il n'y a plus rien d'élégant. Je trouve ça assez joli. Ainsi que par une composition musicale qui brise la ligne de la douceur de la voix grâce à sa rythmique pop et nerveuse.
France Inter. Une heure en série.
Et l'heure de l'effet miroir. Et ce soir, cher Benoît, pour la centième d'une heure en série, vous avez décidé de nous expliquer pour quelles raisons certains producteurs de séries américaines ont tout intérêt et tout espoir à voir leur série atteindre le numéro 100.
Exactement, car dans l'industrie des séries télé, l'épisode 100 n'est pas qu'un chiffre rond et symbolique, il a une véritable valeur qui compte pour bon nombre de séries, je vous raconte. Tout a commencé il y a fort longtemps, dans les années 50, quand le couple Lucille Ball et Desi Arnaz, avec leur société Désilu, je vous recommande au passage le très chouette film d'Aaron Sorkin, disponible sur Prime Video et qui raconte l'histoire du couple, Being the Ricardos. Tout commence donc quand Lucille Ball et Desi Arnaz inventent ce que l'on appelle la syndication pour I Love Lucy. Mais que sort quoi, la syndication, Xavier? Eh bien, le fait... C'est la centième, on y va. C'est le fait de vendre votre série sous licence à une autre chaîne pour lui offrir une deuxième fenêtre de diffusion. Ainsi, afin de pouvoir tourner I Love Lucy en pellicule, ce qui coûtait trop cher à CBS, à ce fumiste de sponsor Philip Morris, Desilu a eu la bonne idée de revendre sous licence la série à d'autres chaînes pour rediffusion. Et c'est ce qui est pratique, hein, c'est que le PAF américain n'est pas composé uniquement des chaînes comme NBC ou CBS. Il compte aussi pléthore de chaînes locales qui, pour nourrir leur grille, notamment en journée, à moindre coût, achètent et rediffusent les séries produites par les networks.
Voilà, ok, tout ça c'est bien beau, mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi il faut absolument atteindre le chiffre du 100e épisode.
Eh bien, pour une raison purement mathématique, pour vendre sa série en syndication, atteindre les 100, c'est nickel. Cela permet à la chaîne locale qui rediffuse la série de la diffuser pendant une vingtaine de semaines du lundi au vendredi et de remplir sa grille pendant la moitié d'une saison. Dans certains cas, le nombre d'épisodes ayant réduit par saison, certaines séries sont largement rentables en syndication avec 88 épisodes. C'est 4 saisons, en fait, de 22 épisodes. Le compte est bon. En plus, les chaînes locales, avec l'émergence des chaînes du câble et du satellite, eh bien, des séries en syndication qui compte donc minimum 100 épisodes peuvent donc avoir une belle deuxième vie et leur rediffusion participe très souvent à leur reconnaissance et leur notoriété. Ainsi, la rediffusion des premières saisons de Law and Order ont permis à la série d'être encore plus populaire sur le network. La franchise Star Trek n'aurait jamais été aussi rentable sans l'existence de ce second marché pour la série Star Trek originale.
Oui, mais pardon, il n'y a jamais eu 100 épisodes pour la série Star Trek. Hein.
Oui, certes, la première série avec Spock et Kirk ne compte que 79 épisodes, mais c'était suffisant dans son cas, car contrairement à une sitcom ou un western familial qui passe, elle, bien en quotidienne, Star Trek pouvait être rediffusée à un autre rythme. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est la rediffusion pendant des années des 79 épisodes de la série classique en syndication qui a permis à la franchise de devenir l'œuvre culte et de gagner de plus en plus de fans, au point de revenir 10 ans après son arrêt sous la forme d'une série cinématographique et 20 ans plus tard avec The Next Generation, une série produite et diffusée uniquement grâce au marché de la syndication. Aujourd'hui, bien évidemment, la multiplication des tuyaux de diffusion ayant augmenté de façon exponentielle le nombre des séries diffusables, ça vient forcément un peu bouleverser les choses. Il n'en reste pas moins qu'une série qui compte 100 épisodes, c'est toujours plus intéressant à vendre, notamment pour une diffusion à l'étranger, surtout quand la série a par exemple pour titre Les 100. La série s'est d'ailleurs arrêtée au 100e épisode pile l'an dernier. Tout un concept, espérons qu'il en soit de même ou pas pour le reboot des Camille 400.
Très drôle, merci beaucoup cher Benoît pour cet effet miroir spécial. 100e émission d'une heure en série. Vous pouvez réécouter bien évidemment et savourer la douce voix de Benoît Lagan en podcast. Vous êtes bien sur France Inter en direct dans une heure en série numéro 100. Voilà, ils suivent. Et c'est toujours avec Ariane Allard, Isabelle Danel et Benoît Lagan. Mounir, jeune saisonnier, a disparu peu de temps après avoir échangé quelques mots avec Ève, traductrice exilée à la campagne. Personne autour d'elle ne semble se soucier de cette évaporation. Le patronyme du jeune homme explique-t-il à lui seul l'indifférence des villageois. Aidé par une garde champêtre opiniâtre et un ex-policier, Ève mène l'enquête. Fraîchement débarqué dans le village car sa mère vient de sombrer dans le coma, Jules, 10 ans, témoin distant et mutique, observe les origines et les conséquences de cette histoire et découvre le vaste champ de mensonges, déni, hypocrisie et trahison dont sont capables les adultes. Les Hautes Herbes, une série française en 3 épisodes disponibles sur Arte TV jusqu'au 4 février. Un polar estival et rural qui reprend le principe appliqué par Alfred Hitchcock dans La mort aux trousses et selon lequel le plein soleil et l'horizon dégagé peuvent également regorger de dangers invisibles et de ténèbres menaçantes.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mounir Sefraoui. Laissez un message.
Je voudrais signaler une disparition auprès de la gendarmerie.
Vous connaissez quelqu'un qui a disparu ?
Non, c'est un jeune homme de passage que j'ai rencontré par hasard. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas rentré.
Mais c'est quoi encore si ça ? Il ne faut pas se laisser tyranniser. Hein.
Tout le monde parle que de ça ? Alors que tu as parlé 3 minutes dans ta vie ?
Personne ne l'a revu. Alors les gens commencent à raconter n'importe quoi. Tout le monde est parano en ce moment.
Ici, c'est insupportable. Il y aura toujours des gens pour nous voir et on me demandera pourquoi je vous parle.
Les hautes herbes, une série de l'excellent Jérôme Bonnel, dont le dernier film en date, Cher Léa, est sorti au début du mois de décembre et qui retrouve ici la toujours formidable Emmanuelle De Vos, qu'il avait dirigée dans Le Temps de l'Aventure. À ses côtés, la tout aussi enthousiasmante India Air et Johanthan Cuisinier. C'était un projet de film, c'est devenu une série. À vous de me dire si c'est une bonne idée ou pas. Télérama salue cette mini-série étrange et intrigante qui mêle habilement thriller, dramatimiste et récit initiatique. Et le monde, quant à lui, a apprécié ce conte d'été doublé d'un thriller minimaliste, chère Isabelle.
Oui, moi je trouve ça formidable, c'est vraiment très réussi et c'est une vraie série, c'est-à-dire que c'est pas un film étiré, c'est une vraie série. Il y a, à chaque fin d'épisode, il y a une vraaie un désir d'aller plus loin, de comprendre ce qui se passe, les arcs sont respectés et c'est vraiment très très bien. Et c'est très très bien écrit avec cette délicatesse qu'on aime chez Bonnel, en tout cas que moi j'aime dans son cinéma, et avec tous ces petits détails qui évoquent mine de rien les sentiments, la peur, l'amour, le désarroi, et ça fait avancer le récit sans forcer, sans appuyer jamais, et la mise en scène prend son temps mais sans nous ennuyer jamais non plus, et c'est ce sens du rythme lent, cette science du passage d'un personnage à l'autre, cette langueur mais jamais monotone qui, dans la contemplation des hommes, pas préparés non plus, dans la préparation des hommes qui se débattent avec leurs démons ou avec ceux des autres, et aussi dans la contemplation de la nature qui s'ébroue sous un soleil de plomb. On est au mois d'août dans un petit village de Touraine, voilà. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on perd presque jamais, on le perd de temps à autre, le point de vue de l'enfant, et que du coup, même si cette histoire finalement on la connaît, elle est vieille comme le monde et comme la jalousie et le désir, etc., eh ben, elle est vue avec des yeux neufs. Et du coup, la mise en scène nous entraîne dans cet œil-là. Et du coup, on est, nous aussi, dans un œil neuf vis-à-vis de cette histoire, quoi.
Ariane Allard.
Oui, bah, à propos du regard, moi, je dois dire que le petit comédien qui s'appelle Antonin Chaussois, qui donc interprète ce personnage de Jules, il est assez extraordinaire parce qu'on lui demande quelque chose de très difficile. C'est un personnage silencieux. Donc en fait, tout passe à travers son regard, et la série s'appelle Les Hautes Herbes, elle aurait pu s'appeler Les Yeux Noirs ou Les Grands Yeux Noirs, parce qu'on ne voit que ça. Moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que quand même, il est confronté en fait aux mensonges des adultes, et c'est souvent des choses qui sont non seulement attristantes, mais qui sont même parfois graves et tragiques. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable. L'autre point que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'on sent que Jérôme Bonnel aime le thriller, et on sent qu'il veut jouer avec les codes, mais sans prétention, sans pause, c'est-à-dire il n'y a rien de spectaculaire, et surtout ça lui permet, je pense, le thriller, il l'avait déjà fait dans certains de ses films, il y a La Dame de Trèfle qui était un de ses films thriller, et je trouve qu'il arrive à parler à travers ces codes-là, de deux thèmes qui vraiment hantent toute son œuvre, qui sont le passage de l'enfance à l'adolescence et les liens familiaux. Et je termine sur le trio féminin que moi, les trois actrices, vous avez parlé d'Emmanuelle De Vos, il y a également India Air et Louise Chevillotte. Ce sont trois comédiennes qui sont très différentes et qui en même temps ont quelque chose de très troublant toutes et de très décalé. Et je trouve que leur trio est extrêmement savoureux.
Benoît, le mot de la fin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Isabelle et Ariane. À l'exception près que, vu la diffusion des trois épisodes en enfilade, franchement, pour moi, c'est plus un grand et beau film, plus qu'une série. J'ai pas vraiment vu la mécanique. Ça avance comme dans un bon film de thriller qui avance bien. Et voilà, mis à part ça... C'est vraiment une grande et belle proposition. Et c'est presque dommage, du coup, que ce ne soit pas une série, parce qu'il y a tellement de choses qui sont évoquées juste en décor, qui sont là et présents ici et là. Un mouvement de gilets jaunes, entre guillemets. Toute une campagne rurale qu'on voit peu, traitée assez rarement comme celle-là. Et un monde, une société, en fait, qu'on voit peu, qu'elle aurait mérité une série plus longue, pour justement aller plus loin encore, tellement c'est bien fait et bien écrit.
Allez, à l'exception de cette petite réserve de Benoît, on vous conseille de vous rouler et de vous dissimuler dans Les Hautes Herbes sur Arte TV.
J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré transformé en pyrogravure.
Song for Jedi par Dionysos, un tube culte. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait souvent, je m'électrocutais. Je trouve que c'est absolument savoureux. Sortie en 2002, cette chanson est devenue l'un des titres phares du groupe originaire de Valence, donc Dionysos, un titre porté par cette voix inimitable, celle de Mathias Malzieu, et pensé d'abord à l'origine comme une simple ballade folk piano-voix, avant de devenir, grâce au guitariste Michael Ponton, qui a décidé d'en faire quelque chose d'un petit peu plus rugueux, un entêtant tube rock qui aujourd'hui encore n'a rien perdu de son talent.
France Inter, une heure en série.
On a le temps de conseils, en fait, de fin d'émission, et je suis ravi que vous en parliez, Isabelle. Vous nous conseillez Star Trek sur Canal+.
Ouais, et MyCanal. Alors, c'est une série en 6 épisodes de 30 minutes. L'histoire de Jessie, une Australienne installée à Londres, qui vit en coloc, qui végète entre 2-3 boulots alimentaires, et qui, un soir de réveillon de nouvel an et de biture, passe une nuit torride avec un charmant jeune homme dont elle réalise au matin qu'il est la star de cinéma Tom Kapoor.
Mais ça s'appelle pas nuit d'ivresse en français.
Non, ça pourrait s'appeler coup de foudre à Notting Hill en l'occurrence, même s'il n'était pas question de s'être bourré la gueule dans coup de foudre à Notting Hill. Et donc voilà, les rôles sont inversés, et c'est surtout que le ton aussi est très très nouveau. C'est vraiment revendiqué comédie romantique avec tous les passages obligés, mais tout le reste est dynamité. Le genre comédie romantique n'est pas dynamité, mais tout le reste l'est. C'est-à-dire que dès le premier épisode, il est question de coups d'un soir, de consentement, de règles, etc., etc. Ça y va, et ça y va pourquoi ? Parce que c'est écrit et interprété par Rose Matafeo, qui est une bombe, qui est une actrice extraordinaire, que j'aime d'amour, que j'ai découverte. C'est une actrice de stand-up, australienne donc. Et elle a une énergie, déjà elle, comme comédienne, mais dans l'écriture. C'est un joie de la langue, des néologismes. Il y a un moment donné où l'agent de Tom lui dit en anglais « I star is born you », c'est-à-dire « je t'ai star is borné, j'ai fait de toi une star ». Bon voilà, tout est à ce niveau-là et c'est vraiment formidable. Et normalement, on ne devrait pas avoir à le préciser, mais effectivement, le fait que le jeune homme soit d'origine indienne, il est anglais-anglais, mais il est d'origine indienne, le fait que cette jeune femme soit un peu enrobée, et ben voilà, c'est aussi une autre façon de nous montrer un héros, une héroïne, et c'est vraiment vraiment joyeux. Et vraiment, régalez-vous parce que ça vaut le coup. 6 fois 30 minutes sur MyCanal et Canal+.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci de cet excellent conseil. Star Trek sur Canal+ et MyCanal. Alors, chère Ariane, vous nous recommandez Meurtre à Sandam, série sur Arte en 10 saisons à ce jour. Et alors, moi, je l'ai regardé hier et il n'y avait pas de meurtre.
Alors,
pardon, mais...
Alors, en fait, déjà, le découpage d'Arte n'est pas le même que celui de la chaîne suédoise initiale. En fait, pour les Suédois, on en est à la saison 7. Je ne comprends rien au découpage d'Arte, donc je précise. Je dis juste que là, il y a...
Ce sont des unitaires à chaque fois.
Ouais, enfin, voilà, quatre fois, il y a quatre épisodes, en l'occurrence, qui vont s'égrener tout au long du mois de janvier. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis ravie de m'immerger dans le cadre enchanteur de cette île, de Sandan, parce que c'est une île très chic, au large de Stockholm, et qui est d'autant plus dépaysante que la série, il faut bien le préciser, se déroule uniquement l'été. Donc, c'est pas du tout le polar suédois habituellement bleu, qui est triste et pluvieux.
Il y a un pic
c'est
de mort chaque été à Sandan.
Voilà. Mais donc, pourquoi les gens y vont alors? Il ne meurt que l'été, en fait, à Sandan. Voilà. Et normalement, même si vous l'avez remarqué pour le premier épisode qui va être diffusé là, il y a un meurtre par épisode. Et en fait, bien sûr, derrière ce côté solaire et transparent, l'idée, c'est de montrer évidemment les failles et les failles profondes de la société suédoise, qui est beaucoup plus loin désormais de son modèle qu'elle affichait jusqu'à présent, vous savez, la social-démocratie, patati patata, etc. Alors moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est sa mélancolie. Et puis j'aime... Et bon, on n'a pas précisé que c'était adapté des best-sellers, parce que pour certains, c'est quand même très connu, d'un best-seller qui est signé Viveka Sten, qui est édité, je crois, chez Albin Michel, pour les amateurs. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa mélancolie, que je trouve absolument magnifique et qui vraiment est très jolie à regarder et à voir. Et puis, ses protagonistes, que je trouve extrêmement attachants. En l'occurrence, on est très content de retrouver dans cette nouvelle saison la procureure Nora Linde. Son interprète s'appelle Alexandra Rapaport. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans la perplexité et dans la mélancolie, je l'ai déjà dit. Et cette fois-ci, dans ce nouvel épisode, elle est flanquée d'un nouvel inspecteur, Alexander, qui en plus d'être charmant est un père célibataire et qui parvient à nous faire oublier l'ombrageux Thomas qui jusqu'à présent l'accompagnait. Voilà. Et c'est juste pour dire qu'ici, ben, comme ailleurs, les élans du cœur ne sont assez loin de la raison, mais que ça fait quand même très plaisir à regarder.
Je me suis moqué, mais la série a vraiment, vraiment effectivement...
Elle a beaucoup de charme.
Beaucoup de charme. Meurtre à Sandham sur Arte, 10 saisons à ce jour. Une heure en série, la 100e, c'est fini. Donc la semaine prochaine, 101e, hein, vous pouvez calculer comme moi. Mille merci à vous, Ariane, Isabelle et Benoît d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Nous vous avons recommandé ou pas Haute Zone Untrack sur National Geographic, ne t'éloigne pas sur Netflix, et notre chouchou de la semaine, Les Hautes Herbes sur Arte. La semaine prochaine, nous évoquerons Wonder Years sur Disney+, Manipulation sur France 2 et The Silent Sea, une série coréenne sur Netflix. Et oui, demain soir à 20h, retrouvez Jérôme Garcin pour un masque et la plume consacré à la littérature avec l'événement de cette rentrée Welbeck, évidemment. Contre ou pour ou contre, une heure en série, une émission à réécouter en podcast, le site internet, le courrier, le compte Instagram, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. L'émission a été réalisée par Marie-Annick Rimbaud depuis la première, donc mille merci à elle, 100 fois merci. La programmation musicale assurée par Valentine Chédebois, et j'ai préparé cette émission comme avec Marie-Annick depuis la première, avec Amel Kaldi, et ce soir à la technique, Florian Dorimini. Vous connaissez le rendez-vous maintenant de 21h, c'est Mathieu Conquet. Bonne année d'abord, cher Mathieu, et puis dites-nous-en un petit peu plus sur le programme de cette émission.
Bonsoir Xavier, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année d'abord, et puis dans un instant ce sera donc la Radio 2 Angélique Kidjo, à l'énergie, au sourire contagieux, tout ça est bénéfique. Et puis pour les nouveautés musicales, je vous présenterai tout à 22h et je remets le son. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Mathieu, à tout à l'heure.